Radio Foot International, Annie Gasnier.
Merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International, toujours pour vous parler évidemment de football où il se passe toujours quelque chose.
Oh my God, what a performance by Liverpool, what a performance by the players, we won 3-0.
Oh my God, des fans anglais en extase et il y a de quoi après ce match à Anfield. Des Reds survoltés et des Citizens qui ont vu rouge hier soir à Anfield. Un match de fou au terme duquel on se demande toujours comment ont-ils fait, comment Liverpool a pu terrasser l'équipe présentée comme la meilleure d'Europe. Jürgen Klopp est-il un homme de coupe ? Pep Guardiola a-t-il perdu la main en coupe ? Deux questions que nous poserons évidemment à nos invités d'ailleurs dans ce studio aujourd'hui. Alors nous avons un entraîneur, plutôt un sélectionneur d'ailleurs, Patrice Baumel, bonjour.
Bonjour à tous.
Il y a aussi un ex-entraîneur qui nous a rejoint après une période d'hivernage, on va dire, au soleil. Carlos Bianchi, bonjour.
Ça va ? Très bien.
Et vous ?
Moi, très bien.
Ça va ? Et puis, on a un futur entraîneur, je pense. Habib Bey, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Il a envie de se faire insulter.
Non, mais il a les épaules pour ça, Habib. Nous évoquerons aussi Mohamed Salah et Sadio Mané, ces deux buteurs hier soir de l'équipe de Liverpool, en se demandant s'ils représentent enfin la relève des stars africaines qui sont aujourd'hui retraitées. Ces stars, d'ailleurs, iront-elles en finale ? Reste-t-il une once de suspense autour de ces qualifiés pour les demi-finales ? Sans doute, évidemment, et on en parlera du côté de Manchester City si Pep Guardiola résout l'énigme Klopp. Les Lions de l'Atlas, mondialistes, 20 ans que les Marocains espéraient ce moment. Une équipe du Maroc tombée à la défaveur, on va dire, du tirage au sort entre Portugal et Espagne, avec en plus dans le groupe C l'Iran. Mais l'Oural est théoriquement plus facile à vaincre que l'Atlas. Vous ne me contredirez pas, Patrice Bonnel, j'espère.
Non, vous avez raison.
Et puis il y a aussi Bruno Constant dans ce studio. Bonjour Bruno.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous aviez parié sur Liverpool ?
Oui.
Ah, vous êtes clairvoyant alors.
3-0 ? Surtout riche.
3-0 ?
Pas 3-0, non, non, mais
bon,
non.
Quel score ?
Mais une victoire d'Adelaide quand même.
Ouais. Ouais, bon, alors. Olivier Pron, bonjour.
Bonjour, moi je trouve que pour un futur entraîneur, arriver en retard, c'est
assez
mal, non ?
C'est une
paye amendable.
J'arrive tout droit de Barcelone, c'est un peu loin quand même.
Il a une bonne excuse.
La main des doubles, désolé.
Habib, comme on était ensemble il n'y a pas longtemps au Sénégal, on peut dire bonjour à quelqu'un qui nous salue sur notre page Facebook, Djibi Mamadou Diallo. Il habite à Podor, dans le département de Podor, au nord du Sénégal.
Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de dire bonjour aujourd'hui. Ça prendra l'émission.
Alors on dit bonjour à eux tous en même temps.
Exactement.
Bonjour à tout le monde. Bonjour à Dakar. Radio Foot, c'est parti. Ils ne marchent jamais seuls et ils ont indéniablement contribué à la victoire surprise, à la large victoire inattendue des Reds hier soir. Des tribunes en fusion à Anfield, dans le stade de Liverpool, connu et envié pour son ambiance, une ambiance incomparable qu'offrent ses fervents supporters et ses fanatiques. On pensait que la confrontation d'ailleurs était à armes égales, on avait du mal à désigner un favori avant le coup d'envoi, un favori peut-être sur le match aller-retour. Et puis il y a eu la démonstration des Reds qui ont fait rougir de plaisir leur entraîneur, mais aussi l'ont laissé songeur Jürgen Klopp.
Comment avons-nous pu dominer Manchester City sur les 90 minutes d'une telle manière ? C'est une énorme surprise. Ils n'ont fait aucun tir cadré. Je ne sais pas comment on a fait. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez planifier. Vous ne pouvez pas dire aux joueurs avant la rencontre « Il ne faut pas qu'ils tirent au but et je serai heureux ». Ce serait fou de dire ça. Toujours est-il qu'ils n'ont pas fait un seul tir cadré, c'est suffisamment rare pour le souligner. Mais je le dis, et je le répète, Manchester City est une équipe fantastique, et ils n'ont pas mal joué. Nous avons juste su les bloquer en étant aux bons endroits, au bon moment, et en les empêchant de créer.
En les empêchant de créer, effectivement, on se souvient de ce qu'avait prédit Jürgen Klopp pour essayer de faire gagner son équipe. Moi, j'ai d'abord une première question pour vous tous. Est-ce que c'est Manchester City qui a perdu, ou est-ce que c'est Liverpool qui a gagné ?
Ah non, c'est Liverpool. C'est Liverpool, forcément.
C'est le cœur qui parle ou la
non,
raison?
Non, mais non, pas du tout. C'est qu'on oublie que Liverpool a fait juste le match parfait. Et on les savait capables de faire une première période comme ils l'ont fait, parce qu'ils l'avaient déjà fait en championnat au mois de janvier à Anfield.
Le 14 janvier, ils avaient été
énormes pendant une heure de jeu. Ils avaient un peu faibli et City était revenu à 4-3. Mais ils s'étaient imposés. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est juste énorme, parce qu'ils ont été parfaits de bout en bout. Et notamment la deuxième période où ils ont défendu comme il fallait, en bloquant les espaces, en frustrant comme jamais City était frustré cette saison. Et voilà, ne pas voir City cadrer un seul tir, c'est exceptionnel. Et forcément, City a pas fait un grand match, mais aussi parce que Liverpool a fait un très bon match.
Carlos, ils ont qui a gagné, qui a perdu selon vous? C'est
gagné,
Liverpool
il a
qui
gagné
gagne.
Liverpool le match.
Sans conteste.
Ça c'est sûr. Non, mais ce que je pense, c'est que pour moi, devant la télévision, pour moi, il n'a pas fait un grand match Liverpool dans le sens de football.
En termes de jeu.
De forme de jeu. Non. Il a réussi 30 minutes parfaits. Il a eu 4 situations de but, il a marqué 3. Le 12e but, il ne le marquera plus jamais, Chamberlain, parce que ce n'est pas son habitude. Et toi et moi,
il y avait du Steven Gerrard dans cette frappe-là. C'était un peu...
Ouais. Ah non, si c'était Gerrard, oui.
Ouais. Frappe magnifique, hein, de 25 mètres dans l'axe.
C'est vrai que quand on voit ça,
c'est pour ça que je dis, moi, Liverpool n'a pas fait un grand match. La question, c'est qu'il a fait un match parfait.
Donc c'est plutôt City qui a perdu.
Non, c'est pas que City l'a perdu, mais City, je crois que City c'est un petit peu comme Barcelone. Arrive à un moment donné que tout est nuit, parce qu'il joue à un bal, il passe le bal de la droite à la gauche, de la gauche à la droite, et tout est nuit parce que tu trouves pas, parce que le but dans le football, c'est de finir à l'intérieur. C'est pas de toucher le ballon pendant 90 minutes. Comprends ce que je dis? Oui. C'est pas créer d'occasion de but. Il n'a rien changé du point de vue offensif. Il va continuer à jouer pareil.
9 tirs, 0 cadré, je crois que ça ne leur était pas arrivé depuis un an et demi. Non,
depuis 2016, ouais.
Fin 2016, quand même énorme.
Après, il faut pas perdre de vue que la tactique de Klopp est tout ce que Guardiola déteste. C'est-à-dire, lorsqu'on va les presser haut, on les embête dans leur construction du jeu. Et avec la capacité, beaucoup d'équipes essayent de presser Guardiola assez haut. Le problème, c'est que lorsqu'ils récupèrent le ballon, ils n'ont pas les arguments offensifs à faire valoir. Alors que Liverpool les a à sa disposition. Quand on parle de Salah, de Sadio Mané, lorsque vous récupérez le ballon très très haut. Et c'est ce qu'ils avaient fait en championnat. Ils avaient coupé la transition entre Ederson et tous ses défenseurs. Et City avait été très embêté sur le... J'ai pas eu la chance de voir le match. Et je vous avoue que j'ai pas voulu lire les journaux ou même regarder les temps forts de ce match-là, à part les buts, bien sûr. Parce que on me l'a tellement parlé que j'ai envie de me mettre devant ma télé pendant 90 minutes et regarder vraiment ce match avec beaucoup d'attention. J'avais pas la chance, j'étais à Barcelone, j'ai pas eu la chance d'être de l'autre côté.
Il est vraiment malheureux à Bibé. Il avait pas la chance.
C'était aussi un bon match, mais c'est sûr que l'opposition Liverpool City a été apparemment extraordinaire. Donc
ce qui est sûr, c'est que au moment du tirage, tout le monde à Liverpool et en Angleterre s'est dit c'était le pire tirage pour Manchester City.
C'est sûr.
De toutes les équipes, c'était le pire tirage parce que c'est la seule équipe qui leur a fait mal cette saison, qui les a battus en championnat, la seule, et surtout qui sait jouer, qui effectivement, comme disait Habib, City a horreur de ça, une équipe qui vous presse, qui vous agresse avec de la puissance du côté athlétique, qui est très présente dans le trio offensif de Liverpool.
De Liverpool, Bruno. C'est pas qu'il y a une grande création de football.
Non,
il joue pas très bien au football, mais il a, à partir de son capitaine Henderson, c'est de l'agressivité, du contact. C'était toujours comme ça, Liverpool. Ouais. Attention, de l'histoire.
Patrice Baumel, comment vous l'avez vu, vous, ce match entre Reds et Citizen?
Effectivement, c'était un match attendu dans les pronostics. La question qu'il faut se poser, c'est sur les 9 tentatives de Manchester, s'il ne cadre pas, est-ce que c'est de la maladresse ou est-ce que c'est Liverpool qui, justement, empêche ces joueurs de talent à Manchester de pouvoir adresser des frappes ou des tirs cadrés? Quand on voit le but de Chamberlain à 25 mètres, l'enchaînement, il y a une passe très tendue qui arrive sur lui, un contrôle magnifique, il a le temps de pousser, de se mettre sur le pied droit et de frapper. Donc la frappe est magnifique, mais s'il y a quelqu'un qui, sur le moment de passe, sur le contrôle, on vient le gêner, peut-être que la frappe n'est pas cadrée et on n'en parle pas aujourd'hui.
Attention qu'ils ont récupéré le ballon quand ils sortaient Manchester City.
Exactement.
Ah oui, très haut.
Compagnie, il était complètement déplacé.
Tout à fait.
Et quand il a voulu se rendre compte, il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas là.
Ça, c'est la force de Liverpool, justement, d'aller chercher haut les joueurs de Guardiola. Et lorsqu'ils récupèrent le ballon, lorsque tu as du talent, c'est beaucoup plus facile.
Bien sûr.
On dit souvent en entraîneur, je pense que Carlos nous le dira, c'est beaucoup plus facile de presser haut lorsque derrière, tu sais qu'à
30 mètres du but, tu vas récupérer le ballon et que t'as le talent pour faire la différence. C'est aussi ça la force de Liverpool, c'est que lorsque tu as Sadio Mané et tu as Mohamed Salah devant ou Firmino ou d'autres, tu te dis si je récupère le ballon aux 30 mètres, j'ai beaucoup plus de chances de me trouver dans une situation de marquer des buts et de mettre en danger l'adversaire que si demain t'as des attaquants qui ont pas ce talent-là.
Est-ce que le handicap hier pour City, c'est qu'un Kevin De Bruyne qui est omniprésent, qui est le rouage essentiel de cette formation est passé à travers deux frappes dans tout le match, donc forcément non cadré puisque on a dit qu'il n'avait pas cadré. Est-ce qu'il est, il n'a pas finalement atteint un peu
C'est pas tellement qu'il est passé au travers parce que David Silva on l'a quasiment pas vu, puis surtout il était très nerveux pendant tout le match. Guardiola a fait le choix, c'est la petite surprise, de mettre Gundogan en milieu droit à la place de Sterling. Ça a un peu surpris, mais Sterling était passé tellement transparent lors des matchs contre son ancien club que c'était assez logique. Mais il y a eu tellement de milieux créatifs dans le cœur du jeu que finalement ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Ils ont été tellement agressés et pressés très haut que même De Bruyne n'arrivait pas à ressortir le ballon, même David Silva n'arrivait pas à être touché. Et c'est plutôt la défense qui n'arrivait pas à toucher leur milieu de terrain. De Bruyne, quand il avait le ballon, il avait très peu de solutions parce qu'il avait tout de suite un ou deux ou trois joueurs autour de lui.
Bruno, tu t'es rendu compte là quand il commence à la deuxième mi-temps? De Bruyne, il est parti comme ailier
droit.
Côté droit.
Oui, il a changé.
Carrément comme ailier droit, il a mis.
Oui, parce qu'il voulait
gagner l'espace. Quand il a rentré Sterling, il a mis au milieu de terrain à la place qu'il joue lui d'habitude. Pour ouvrir le terrain, mais il savait, il était pas tellement net, peut-être Guardiola dans sa tête. Et attention, quand tu es mené 3-0.
Alors justement, Pep Guardiola, c'est ce qui a un peu surpris hier, et c'est peut-être l'énigme autour de ce match, en tout cas. C'est-à-dire qu'on le connaît comme un fin tacticien, comme quelqu'un qui est capable pendant un match de changer de système de jeu. Et puis là, on a eu l'impression qu'il n'y avait pas véritablement de réaction. Et Pep Guardiola, il est pas trop mécontent, même si le résultat est sévère, mais de ce qu'ont fait ces joueurs. Écoutons-le.
J'ai dit à mes joueurs que dans le foot actuel, nous devons de toujours être nous-mêmes. Voilà comment nous avons commencé la rencontre. On a eu des corners, des coups francs, de belles séquences d'attaque. Ils ne faisaient pas une passe, mais vous clignez des yeux et pop, pop, il y a 2-0 contre vous. C'est dur pour les joueurs car votre adversaire est bien meilleur et joue bien mieux que vous. Vous vous inclinez, acceptant les deux buts coup sur coup. Mais là, je n'ai pas le sentiment d'avoir été mauvais. Peut-être qu'en revoyant la vidéo du match, je changerai d'avis.
Well, it was a disaster, but I don't have that feeling.
Alors vous allez voir la vidéo aussi, hein, comme Pep Guardiola, Habib. Mais Carlos, est-ce que il a été dépassé, Pep Guardiola? On se demandait, on a regardé un peu les statistiques par rapport à ses parcours en coupe et notamment en Ligue des Champions. Est-ce que c'est vraiment, on parle pas de l'époque Barcelone qui était peut-être quelque chose d'exceptionnel. Est-ce que c'est un homme de coupe finalement ou quelqu'un qui travaille sur le long terme et qui gagne un championnat?
Non, c'est un mec qui a gagné des coupes déjà.
Non, bien sûr, mais c'était avec
Barcelone. Bon, s'il gagne
Barcelone,
pas celle-là, ça va faire 5 ans des champions qui ne gagnaient pas. Oui. Parce que 3 années à Bayern et 2 années à Manchester. Mais non, je ne crois pas ça.
Il s'arrête en demi-finale.
Mais si ça, oui,
d'habitude,
ça,
il a fait 3 demi-finales. Mais attention, avec le Bayern.
City en a collé 5 à Liverpool, à Manchester City.
Oui, c'est pour ça.
Ça, c'est une vraie question.
Moi,
c'est
11
contre 10. Oui, à 11 contre 10.
C'est peut-être, paradoxalement, le plus indécis des quarts de finale.
Tu sais que pour moi, je le dis tout à l'heure, à mesure qu'il passe les jours, plus tu vas te convaincre que Manchester il peut rendre.
Mais attention, c'est ce que disait Guardiola juste après le match. Il dit dès demain, mon rôle c'est de leur expliquer, de leur faire croire qu'on peut y arriver, de se convaincre qu'on peut y arriver.
Moi je suis sûr qu'à mesure qu'il passe les jours, quand tu arriveras mardi prochain, Manchester City va être sûr qu'il va se qualifier.
Avec ce bémol, c'est que d'habitude il y a 15 jours, il y a même eu déjà 3 semaines. Pour
jours,
se refaire la cerise, c'est pas mal. Là il n'y a que 6 jours.
Mais attention!
Avec le derby de Manchester ce week-end.
Non, excusez-moi.
Ah, pardon.
Si Guardiola, il est intelligent, il met.
Ça, je suis sûr.
Il met les minimes.
Il peut pas.
Il fait jouer les minimes.
Pourquoi pas? Pour un derby de Manchester.
Excusez-moi, j'ai 20 points de plus.
C'est le match du
titre. Non, je le fais contre River. Avec River Boca, c'est plus important que Manchester City Liverpool. Parce que là-bas, c'est la moitié d'un pays contre la moitié de l'autre. C'est différent. Là, c'est une ville contre une autre ville. C'est 300 000 personnes contre 500 000 personnes. En Argentine, j'ai mis une fois la réserve. Pas une fois, trois fois j'ai mis la réserve.
C'est pour ça que vous vivez 6 mois de la
Boca,
chez nous.
Parce qu'on devait jouer le match de Coupe de Libertadores. Tu dois savoir lequel c'est ton objectif. Imagine-toi que je bats Manchester United 4-0. Et après, je ne me qualifie pas. Ça sert à quoi les 4-0?
Non, en plus le titre il est assuré pour City.
Oui, que ce soit pas sur ce match, ça sera sur le match d'après.
Je suis d'accord qu'il est assuré, mais un Manchester derby, il peut pas jeter un derby de Manchester comme ça à la poubelle en faisant.
Non, le jeter non, mais je pense qu'il doit faire des choix forts parce qu'il doit faire des choix de rotation pour se permettre et se donner l'opportunité d'avoir des joueurs à 200% le jour de l'événement. Il a l'opportunité de jouer, c'est vrai, le titre contre Manchester United, mais il l'aura encore contre Tottenham. Il l'aura encore sur les journées d'après. Donc
c'est trois matchs de très très haut niveau. En 6 jours, ouais, pas en 15 jours, en 6 jours, d'un mercredi à un mardi.
Donc il faut faire des choix, c'est ça. Patrice Baumel, si vous étiez vous dans cette à la place de Guardiola, réfléchissant,
on
vous rase les cheveux. Et
ce derby mancunien, comme disait Habib, je pense que le titre est assuré. Donc les supporters de City pourraient pardonner, comprendre... éventuellement un match nul ou une défaite de City, si derrière, bien sûr, il y a cette remontada qui a chaque année. Donc,
comeback, on dit, voilà. Le comeback. Bruno, est-ce qu'on peut y croire quand même à ce retour de City? Parce qu'il va falloir au moins marquer 3 buts et en encaisser aucun.
On parle aux journalistes, pas aux supporters des Reds.
Agüero, tu crois qu'il va jouer?
Ça va être juste, mais ils vont tout faire pour. Il a eu un petit pépin, mais
Le premier match amical de la sélection argentine.
Ouais. Et visiblement, il était trop juste. Ils ont pas voulu le risquer. Je pense qu'ils ont pas voulu le risquer par rapport à ce qui se passait derrière. Donc peut-être le match retour. Mais après,
parce que
voilà.
Oui, c'est important. Jésus, il est bon.
Bien sûr.
Mais Agüero, c'est
sûr.
Agüero.
Après, sur les chances du match retour, Habib l'a dit, c'est qu'ils l'ont déjà fait. Et je pense que dans les têtes, ça peut jouer, même
5-0.
Si 5-0 en championnat.
Oui, mais c'était en début de championnat
C'était en
Klopp
début de saison. C'était à 11 contre 10. C'était à 11 contre 10. Mais quand même, je pense que dans c'est une manière de se rassurer, de se dire on l'a déjà fait, que c'est possible. Et la seule chose que je crois pas que City est capable de faire un match sans encaisser de but face à Liverpool. Et que le problème, il faudra en marquer 5 s'ils en prennent un. Et là, ça va être très compliqué quand même.
Moi, j'y crois.
Habib.
Ah oui. Moi, j'y crois. Vraiment. Mais je sais pas.
Vous les avez pas vus jouer hier, je crois.
Non, mais c'est pas ça. Non, mais je les ai vus, par contre, depuis le début de saison, et c'est quand même un récital à chaque fois de la part de Guardiola.
Ça qui nous a hier.
Ce qui est intéressant aussi dans le monde du football d'aujourd'hui, c'est qu'on a porté Guardiola, et on le porte avec beaucoup de logique, puisqu'il a raflé des trophées, il a un petit peu modernisé le football, il l'a révolutionné en quelque sorte. Mais hier, il se trompe aussi sur le plan tactique, comme s'est trompé Allegri avec la Juve sur le match de mardi. Il faut savoir dire aussi, lorsqu'un entraîneur, même un grand entraîneur, fait des erreurs sur le plan tactique. Donc ça peut arriver aussi à Guardiola de se planter, d'avoir un entraîneur en face qui lui choisit la bonne solution, mais ça remet pas en cause son talent, et ça remet pas en cause le fait que peut-être Guardiola, mardi prochain, va inverser la tendance et peut-être en coller 5 à Klopp. Ça fera pas de Klopp un mauvais entraîneur. C'est que maintenant c'est un rapport de force qui s'installe. Quand tu gagnes 3-0, t'es quand même assez confiant, je pense.
Et puis, il y a quelque chose au niveau de la confiance, de un côté psychologique, c'est que Klopp a trouvé l'antidote face à Guardiola. C'est le manager qui a le plus
fois.
De victoires face à Guardiola.
8 victoires, 5 défaites, 1 nul.
Du temps où ils
sont 13. Ça fait 7-5 et 1 nul. Ouais.
Du temps où ils se croisaient, en plus, ils croisaient le fer dans le championnat allemand, bien sûr. Ouais. Mais alors, est-ce que cette victoire de Jürgen Klopp, et finalement, on voit avec toute sa fougue, avec ce qu'il sait transmettre à ses joueurs. Est-ce que ça l'a fait changer de statut hier un petit peu?
Pas forcément. Plus parce que c'est la Ligue des Champions, mais il faut se dire qu'il y a 2 ans en Ligue Europa, il avait fait des matchs exceptionnels face à Dortmund. Le match retour face à Dortmund en quart de finale, je crois, à 4-3, qui était exceptionnel. Quand il est arrivé à Liverpool, il a dit quelque chose. Je suis arrivé ici pour changer ceux qui doutent en believer, ceux qui croient. Donc croire à nouveau, que le peuple de Liverpool croit à nouveau en son équipe et en son jeu. Et il a changé ça. Moi, je vous conseille juste les 2 conférences de presse, celle d'avant-match, le veille de match, et celle d'après-match de Klopp. Elles sont juste extraordinaires. Il ne fait que parler que du jeu, que de la manière dont il veut voir son équipe jouer, et les valeurs qu'il inculque à cette équipe. Et c'est juste du bonheur à entendre. C'est positif, c'est vraiment intéressant. Et
dis-moi, comment ça se fait qu'il ne le fait pas jouer comme ça au championnat anglais?
Parce que je pense que sur 38 journées, il ne peut, voilà. peut pas avoir cette philosophie-là. Sur des coups, sur des coupes, sur un match où il donne de l'énergie à ses joueurs.
Un objectif ponctuel.
Un objectif ponctuel. Le seul problème qu'il a sur 38 journées dans un championnat, c'est qu'il a une équipe qui est parfois très déséquilibrée. Et que sur une longueur de championnat, il y a des fois de la casse. Il y a des fois où il va prendre 3-4 buts parce qu'il veut que son équipe soit déséquilibrée. Sur la Ligue des Champions, c'est différent, c'est ponctuel. Là, il y a les matchs aller-retour. C'est pour ça que je crois en Jürgen Klopp sur éventuellement une Ligue des Champions, parce qu'elle est tellement surprenante, son équipe, qu'elle est capable de tout. Personne pensait que Liverpool allait en coller 3 à City. Personne n'avait pronostiqué ça, même si on savait que Liverpool pouvait gagner. Mais de là à gagner 3-0 contre l'équipe de Guardiola, franchement.
Donc Klopp, c'est plutôt un homme de coupe, voire un homme de coup, c'est ça?
Pour l'instant, c'est ce qu'il a montré.
Sur la longévité d'un championnat, c'est ce qu'il a montré, oui. Ouais.
Les attaquants. Mohamed Salah, Sané, ils sont apparus hier au top. Ils marquent des buts absolument incroyables. Un nombre de buts pour Salah, c'est 7 buts en Ligue des Champions pour le Pharaon depuis le début de cette compétition. Pour Sadio Mané, il y a aussi plusieurs...
C'est même le nombre de buts. Enfin, oui. Les stats de Salah cette saison, c'est Ronaldo et Messi. Hein, c'est vraiment de ce niveau-là. Ouais. Il pourrait même avoir le Ballon d'Or. Bah, pas de bol, il est égyptien. Ça va être un handicap. En tout cas, c'est ce qu'on dit en riant. Mais je pense que tout le continent en rêverait, il en sera sans doute pas loin, surtout qu'il sera à la Coupe du Monde et que l'Égypte est dans un groupe, on va dire, très ouvert.
La Ligue des Champions, voilà.
Bien sûr. 42 matchs, 38 buts, et vous ajoutez à ça 13 passes décisives. Ça n'est pas rien d'être à la fois un buteur et un passeur décisif. Et pour Sadio Mané, Annie, pour compléter, 16 buts toutes compétitions confondues, 9 en Première Ligue, 7 en Ligue des Champions. Là encore, pour le Sénégalais que vous êtes, c'est pas mal, c'est la relève de peut-être des Drogba et des Eto'o qu'on attendait sur le continent.
Oui, ou de la Djidjouf au Sénégal, qui a été double Ballon d'Or, il faut pas l'oublier aussi. Mais je crois que ce qui est important de dire, c'est que ces deux joueurs-là sont, en termes de rapport qualité-prix, les deux plus beaux transferts que Liverpool ait réalisés. Ah oui. C'est-à-dire que faut savoir que Sadio Mané était payé, je crois, 35, Salah était payé quoi, presque 50 avec les bonus, enfin 45-50.
Un peu moins.
Vous rendez-vous compte aujourd'hui, lorsque vous regardez le talent des deux garçons, même si Sadio, je trouve, depuis quelques semaines, voire même un petit mois, est moins bien, et dans le langage du corps, hier, même lorsqu'il marque, je vois pas un garçon heureux. Bah, je crois qu'il y a eu des petits problèmes
même
avec
Klopp. En début de saison, il a eu du mal, il était pas trop dans le 11.
Sadio Mané, je trouve que bon, je pense qu'il a eu quelques petits problèmes avec Klopp. Klopp, à un moment donné, l'a mis sur le banc, et puis le fait de perdre le Ballon d'Or face à Mohamed Salah, même si c'est un ami, c'est toujours quelque chose qui vous marque, rappelez-vous, avec Griezmann également. C'est des moments où vous avez du mal à gérer ces événements-là. Mais par contre, c'est exceptionnel de voir des joueurs qui ont été payés si peu cher dans le foot d'aujourd'hui réaliser ce type de performance.
Et d'autant plus pour Salah qui a été acheté l'été dernier, où toutes les sommes se sont affolées, les compteurs ont été...
Je crois que la Roma, il a fait un mauvaise affaire.
Ah oui.
Patrice, c'est difficile à comprendre.
Il
ça.
Doit s'en demander.
Parce que c'était ton meilleur attaquant presque.
Aujourd'hui, sur le marché des transferts, si Mbappé vaut 180 millions, sans faire de comparaison aucune, Mohamed Salah, aujourd'hui, ça vaut 150 millions. Coutinho, 160 millions. Mohamed Salah, c'est entre 150 et 200 millions aujourd'hui.
Mais Carlos, de toute façon, Mohamed Salah, ces derniers temps, il avait fait beaucoup de clubs. On l'a vu à Chelsea, les entraîneurs, on avait l'impression qu'ils savaient pas trop, ou alors ça rentrait pas dans le schéma de jeu,
c'est sa meilleure saison, quoi.
Oui,
c'est la meilleure saison de sa vie, hein.
Mais c'est Klopp aussi.
Non, mais il était pas efficace. Attention, le Mohamed Salah, tout le monde reproche, par exemple,
Roma,
aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde dit, Mourinho, il a pas su faire jouer De Bruyne, il a pas su faire jouer Mohamed Salah. Et on a ces constats-là. Il faut pas oublier que Mohamed Salah à la Roma, c'était 15 occasions, un but. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Mohamed Salah, c'est 3 occasions, 3 buts. Ouais, donc, il a aussi changé, il a aussi évolué, il a aussi mûri, il a pris de l'expérience et il a progressé. Ce qui fait qu'il est le joueur qu'il est aujourd'hui.
Le but, même le but qu'il marque, c'est par hasard, parce que Firmino, il met le pied.
Patrice, vous connaissez l'Afrique, vous la sillonnez depuis longtemps, vous êtes au Maroc aujourd'hui, voir ces deux joueurs-là, d'abord, est-ce qu'on en parle au Maroc? Est-ce que même les Marocains s'intéressent? L'un est égyptien, l'autre est sénégalais. Bien sûr. Le Sénégal, c'est pas très loin du Maroc. Mais c'est forcément bon aussi pour le football africain que vous connaissez bien.
Bien sûr que le peuple marocain suit la Champions League et tous les joueurs qui évoluent en Afrique. Mais aujourd'hui, Mohamed Salah, je trouve qu'il a franchi un cap parce qu'il arrive aussi à maturité. Je crois qu'il a 25-26 ans, il a enchaîné les matchs, comme disait Habib, sur 2-3 saisons. C'est vrai qu'il n'était peut-être pas hyper régulier, mais cette année, je pense qu'il a pris confiance et on le voit, il tente des gestes, il fait des différences. C'est un joueur de percussion qui casse des lignes, balle au pied, il va très vite et je crois qu'il a toutes les qualités pour rivaliser avec les grands de ce monde, que ce soit Messi ou Ronaldo, parce qu'il a cette puissance balle au pied dans ses appels, dans la capacité, comme je dis, à faire des différences.
Et Sadio Mané, pour vous?
Pareil, je pense qu'il arrive aussi à maturité. Après, c'est vrai que je l'ai pas senti ces dernières semaines toujours heureux dans ses choix ou dans sa façon d'évoluer, mais ça reste un grand joueur, bien sûr. C'est des joueurs de percussion et c'est ce que Klopp demande. Quand il était à Dortmund, il avait des joueurs de ce registre. c'est un coach qui amène cette volonté du foot vers l'avant, de percussion à la perte de balle. On reste proche du ballon, on presse. Et ce sont des joueurs qui peuvent répondre aux exigences de Klopp.
Et sa force, c'est de trouver les complémentarités. Ce qu'on regarde, c'est que lorsqu'il était à Dortmund, il avait Marco Reus, il avait Lewandowski. Il y avait beaucoup de complémentarités entre ces joueurs-là. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde Sadio Mané et Mohamed Salah, c'est pas du tout les mêmes joueurs. Sadio est un joueur de côté qui aime rentrer à l'intérieur. Aujourd'hui, Mohamed Salah se mue en faux numéro 9. Un peu ce qu'on voit chez Messi aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un joueur qui crée du lien un petit peu partout sur le terrain. Il n'hésite pas à décrocher lorsqu'il voit que son équipe est en difficulté. Et c'est quelqu'un que vous pouvez trouver soit dans la profondeur, qui a cette faculté face aux gardiens et très précis, et qui a aussi ces petites solutions de passe à l'intérieur, donc ils trouvent beaucoup de relais, et ils ont un joueur aussi extraordinaire, Firmino. Dans ce cas-là, moi je l'avais vu avec l'équipe du Brésil, et encore une fois, mais à coup de pas, j'avais vu ce joueur-là à la Coupe des Confédérations avec le Brésil, j'avais dit, mais qui c'est cet attaquant du Brésil? Il est catastrophique. Et ben, il m'impressionne par sa qualité à faire jouer les autres.
Oui, il a beaucoup de sacrifices pour ses coéquipiers. Exactement. Il ne faut pas attendre de lui qu'il soit un grand buteur, mais c'est un avant-centre. Tout ce qu'on remarque de Benzema, on pouvait le faire avec Firmino.
Exactement,
c'est la même chose, c'est parce que lui, il joue pour les autres. Comprends? Et c'est un joueur qui ne va pas planter beaucoup de buts. Non parce qu'il est maladroit, mais lui, il joue pour ses coéquipiers.
Exactement, il va marquer peut-être 15-20 buts dans une saison, mais par contre, pour regarder ce qu'il fait pour les autres, ce qu'il ouvre pour les autres comme espace, et ça,
ce trio-là est le meilleur en Europe aujourd'hui, parce que la question se pose. Et Annie, vous en avez parlé hier, je crois, après le match.
Oui, c'est dont on parlait effectivement en sortie de match. Quoi. C'est eux qui ont été les artisans de cette victoire, même si en 31 minutes ils mettent 3 buts et après effectivement c'est presque ils passent la balle à la défense.
Ils ont les qualités de leurs défauts, parce que le souci qu'il y a, c'est que si ces trois joueurs là pendant ces 30 minutes ou cette heure de jeu ne marquent pas, et c'était déjà le cas face à Manchester United, moi je les avais commentés à Old Trafford, ils avaient eu des opportunités, ils n'avaient pas marqué, et derrière le problème c'est que hier, ce qui est incroyable, c'est que ça tient, parce que peut-être que City ne produit pas le jeu de d'habitude, mais lorsqu'on voit cette défense, même si Van Dijk est arrivé et a apporté un petit peu plus de stabilité, c'est une défense qui malgré tout prend beaucoup de buts en première ligue, et qui pourrait être exposée dans des grands matchs, si les trois ne brillent pas très très vite, à justement subir ces assauts sur le plan défensif.
Je voudrais ajouter quelque chose sur le public. Parlez-nous de ce public, Bruno, parce que c'est vrai qu'on connaît Anfield, on connaît cette chanson, ce côté vraiment enthousiaste de ces fanatiques, de ces supporters. On a eu l'impression qu'ils avaient un rôle pratiquement là, comme d'ailleurs ça avait été le cas le 14 janvier dernier, ils avaient poussé l'équipe finalement pratiquement à l'emporter face à City.
Et bien avant même le coup d'envoi du match, parce que c'était assez exceptionnel l'arrivée du bus. Alors, il y a eu quelques dérapages avec des jets de projectiles, mais il y avait un public énorme à l'extérieur du stade pour accueillir le bus de Liverpool. Et c'était
cru que c'était une finale, ça a été filmé par
des collègues qui étaient là-bas. Ils me disent, c'est impressionnant, on n'a jamais vu ça à Liverpool. Il va se passer quelque chose, il y avait de l'électricité dans l'air et ça s'est ressenti aussi à Anfield. Mais il y a une particularité dans le foot anglais et encore plus à Anfield. C'est les soirées européennes, c'est les matchs en nocturne, il se passe quelque chose, il y a quelque chose de différent, de magique, d'électrique.
Ouais, parce que sinon le championnat est en journée.
Oui, c'est vraiment différent et l'ambiance est différente, les gens qui viennent sont parfois différents et là clairement, Anfield en plus c'est vraiment le temple du football anglais avec Old Trafford, il y a une histoire particulière avec la Coupe d'Europe comme à United et c'est vraiment quelque chose qui se ressent quand on va dans ce stade et avec des gens qui rêvent de Coupe d'Europe, qui ne parlent que ça et voilà, c'est ça.
Surtout le nouveau Anfield, qui
est encore plus grand.
Une question. Il peut suspendre le stade de Liverpool pour ce qu'ils ont fait avec le car? Parce que ce n'était obligé à changer le car.
Mais a priori non, parce que ça se passait en dehors de l'enceinte.
Oui, mais là.
C'était sur le chemin et la police était là.
Oui. Et le problème, c'est que la police avait, il y avait déjà des alertes en me disant qu'il y avait des risques. Mmh. Et la police a dit non, on va gérer.
Malgré tout, c'est déstabilisant. Je ne donne pas d'excuses à Manchester City, mais moi, je l'ai vécu par exemple avec Marseille lorsqu'on est arrivé au Parc des Princes. Ce match-là, on l'avait perdu d'ailleurs. On avait été caillassé et même si vous dites pas, il faut reporter le match, vous le jouez, mais c'est quelque chose qui vous perturbe dans votre préparation de joueur. Donc ça a pu perturber certains joueurs de City, vraiment.
Ouais. C'était en dehors du stade, mais c'est vrai que finalement cette semaine, en Ligue des Champions, on a vu des super buts qui nous ont extasiés. On a parlé d'Oxlade Chamberlain, on a évidemment parlé de celui de Ronaldo, mais on a vu deux publics de suite, deux soirs de suite, que ce soit à Turin, quand même, quel hommage. Ouais, on a tous la chair de poule, je pense, quand on y pense.
Ils chantaient même quand ils perdaient.
Quel hommage après le but de Ronaldo, encore une fois. voilà, j'en ai la chair de poule moi quand j'en parle. Et hier, dans à Anfield, on est plus habitué, mais vraiment, ça fait du bien aussi de voir ça, des publics qui savent reconnaître la valeur de l'adversaire. C'est voilà, c'est des belles images aussi. Et la Ligue des Champions, c'est ça aussi.
Carlos, vous connaissez ça évidemment en Amérique du Sud, des beaux publics et des.
Toi, t'as vécu au Brésil. Hein. Et je suis arrivé quand on arrivait à jouer la finale de la Coupe Libertadores. Il y avait 100 000 Brésiliens. Tu voyais seulement les dents et les maillots blancs. C'était incroyable. Le bus, ma femme, elle a mis 3 heures pour sortir après le match. Mm-hmm. C'était incroyable. Tu ne pouvais pas sortir du stade.
C'était dans quelle ville ?
C'était Sao Paulo, à Morumbi.
Mm-hmm. Oui, en plus. Un des temples aussi latino-américains. Au Maroc, c'est comment, Patrice Baumel ?
Ah, c'est pas mal aussi. Hein.
Ouais. Ça a l'air de loin, en tout cas.
Le public pousse beaucoup, surtout à Casa, mais je pense qu'aujourd'hui, dans tout le Maroc, lorsqu'on se déplace, les stades sont pleins, ils supportent l'équipe nationale, même les clubs, que ce soit le Wydad, le Raja, il y a toujours des stades pleins avec des tifos magnifiques, des chants superbes. Donc ça, c'est vrai que ça pousse, vraiment ça pousse.
Ouais. On le sent quand on est entraîneur, quand on est sur le banc.
Vous changez de ville quand ils jouent la sélection ou ils jouent toujours la même ville ?
Non, on change.
Ah, vous changez de ville ?
C'est vrai que lorsque nous sommes arrivés...
C'était que Marrakech à l'époque.
C'était Marrakech les 4 premiers matchs. Après, on a joué aussi à Rabat, on a joué à Agadir. Et puis depuis, Agadir, un très joli stade, très beau stade. Exactement. Et un beau public aussi. Et c'est vrai que le public de Casablanca est juste magique. Vraiment.
C'était des stades qui étaient prévus à l'origine pour la CAN 2015. Et qui serviront peut-être dans une CAN proche ou moins proche. Mais enfin, en tout cas, voilà, c'est des stades qui sont tout neufs.
Oui, et qui servent aussi pour d'autres compétitions, notamment pour le CHAN. Mais juste avant de passer au Maroc, Patrice, une dernière question pour vous tous. Est-ce que selon vous, on connaît déjà les affiches des demi-finales ou pas ?
Trois, oui.
Trois, des quatre qualifiés.
Oui. Oui, trois, oui.
C'est-à-dire
le Real Madrid, Barcelone et Bayern.
Oui, a priori.
Les trois, oui.
Oui, parce qu'on rappelle qu'hier, Barcelone a gagné, je crois.
Oui, en fait.
4-1 contre la Roma, vous y étiez ?
J'y étais, j'étais. Bon, pareil, on a vu un Barcelone pragmatique. C'est bizarre, ce Barcelone, en fait.
Ouais, depuis contre leur camp des Romains.
Elle interpelle cette équipe. Parce qu'on a connu la flamboyance de Guardiola, la flamboyance d'Enrique. Et là, en fait, on a le pragmatisme.
Maintenant, la flamboyance, elle est à Liverpool.
Et là, on a le pragmatisme de Valverde. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui est une tueuse de sang-froid, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont 5 actions et puis ils mettent 4 buts.
Et souvent ballottée, hein. Elle était ballottée encore un peu hier.
Ouais, un petit peu hier. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'elle a quand même la meilleure défense d'Europe en Ligue des Champions. Ouais. Ils n'ont encaissé que 3 buts. Ils ont l'une des meilleures défenses d'ailleurs de
l'histoire. Ils ont des meilleurs gardiens aussi, ouais.
Et ils ont un très très bon gardien,
très
ça c'est
bon
vrai.
Gardien.
Et puis bon, Messi, même s'il ne marque pas hier, met la pression sur les adversaires. Hein, et c'est le vrai problème. C'est une équipe qui. Rakitic hier a été incroyable de talent.
Le défenseur, il a eu peur de Rosine. Je comprends pas parce que.
Non, mais je pense que t'es en asphyxie en fait. À un moment donné, face à cette équipe, t'es en asphyxie.
Il a frappé.
Il n'y a plus de lucidité et tu perds tes moyens parce que ces joueurs-là, ils te trouvent des intervalles de passe que personne ne peut trouver. Iniesta, c'est.
Après, il y a encore une petite polémique qui monte. C'est au niveau de l'arbitrage avec le pénalty qui n'est pas accordé juste avant la pause.
Pour être très honnête, je l'ai revu 4 fois au ralenti. J'étais incapable de dire et ça aurait été un super sujet pour l'assistance vidéo parce que j'étais incapable de dire, même avec la super loupe, de savoir si Umtiti le touche sur la ligne, est-ce qu'il le touche. Ça aurait été vraiment intéressant de voir l'assistance vidéo. Si c'est sur la ligne, c'est pénalty.
Ah, moi, je connais quelqu'un qui est sur son coup.
Ah oui, ok.
Ah ouais, qui est sur son coup, ça l'aurait fait. Et je ne vous étonnerai pas en vous disant que pour lui, il n'y a pas pénalty.
Mais fait une faute.
Umtiti fait une faute sur la ligne. Enfin, sur la ligne, ça apparaît sur la ligne et il donne coup franc. Alors qu'il aurait pu avoir pénalty.
C'est ça.
La ligne fait partie de la surface.
C'est
sur la ligne ou juste avant.
Exactement. Exactement. Moi, j'ai été incapable sur 4 ralentis de dire de façon stricte, il y a pénalty ou il n'y a pas pénalty. Et pourtant, je suis ni pour Barcelone ni pour la Roma. Ça aurait été Marseille, j'aurais dit non, pas pénalty.
Bon, donc on verra effectivement la semaine prochaine pour ces matchs retour. Mais c'est vrai que les matchs allés nous ont pas laissé beaucoup de suspense. Mais le suspense, évidemment, il sera du côté de l'Etihad Stadium.
Mais en discutant avec le Réfi ce matin, on se plaisait à rêver des demi-finales si les scores en restent là, comme au match aller. Et alors là, pour le coup, je suis totalement d'accord. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais imaginons que ça reste comme ça. Deux demi-finales qui pourraient être Real Barça. Ça et Liverpool-Bayern. Liverpool-Bayern, ça nous rappellerait pas 40 ans en arrière, ce serait magique.
Mais Bruno est là. Si demain on a un choix à faire, on préfère voir une demi-finale de Ligue des Champions à Anfield que d'aller voir au Etihad Stadium. L'Etihad Stadium, par exemple, c'est sûrement le stade en Europe où il n'y a pas d'ambiance.
Liverpool-Bayern, à Anfield, puis.
À l'Etihad Stadium, à Manchester City, il n'y a aucune ambiance dans ce stade. Alors je préfère aujourd'hui Guardiola parce que c'est un petit peu mon. C'est un peu mon idole, mais je préfère voir Liverpool en demi-finale de Ligue des Champions rien que pour l'ambiance d'Anfield.
Moi, j'étais à la demi-finale il y a 2 ans contre le Real. Et c'est terrible parce qu'il y avait, pendant 5 minutes, il y avait de l'ambiance pendant 5 minutes avec l'entrée des deux équipes sur le terrain. Et après ça, c'était terminé. Plus un bruit. Et c'était une demi-finale de Ligue des Champions. Ouais. C'était terrible.
À Manchester City.
Oui, à Manchester City.
Et vous pensez que là, justement, parce que là, ils sont un peu en difficulté.
À Manchester, on dit, enfin, les supporters de United disent qu'il n'y a pas de public, il n'y a pas de supporters des citizens, en fait. La ville est coupée en deux, mais il n'y a qu'une couleur, c'est le rouge, et que le bleu n'est pas supporté du tout.
Bruno, est-ce que, justement, ils sont un peu en difficulté? Là, il y a 3 buts à remonter. Vous pensez que le public, là, va se mobiliser, chanter, va l'encourager? Ils ont des chansons, d'ailleurs, pour les encourager?
Ouais, ils ont des chansons, mais c'est des chansons anglaises, quoi. C'est pas. Puis Manchester City, il y a un côté un peu Joy Division, un peu comment dire, dépressif, qui accompagne ce club assez bizarrement, d'ailleurs, qui accompagne son histoire, et c'est vrai. Mais j'espère qu'ils vont se réveiller. J'espère que le public va sentir que leur équipe a besoin d'eux. Ouais.
Mais Annie, ce qu'on peut dire aussi, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde aujourd'hui le football, tout le monde se plaint qu'il y ait trop d'argent, qu'il y ait des capitaux qui arrivent de mécènes et tout. On se rend compte que malgré tout, sur une demi-finale, on va avoir une institution qui s'appelle le Barça, une institution qui s'appelle le Real, une institution qui s'appelle le Bayern Munich.
Mais c'est les clubs les plus riches.
Non, je suis d'accord avec toi, Bruno, mais il y a beaucoup de gens qui se plaignent des nouveaux riches, de ceux qui arrivent et qui envoient 500 millions d'euros par an en termes de transfert. C'est ce que fait City, c'est ce qu'a fait le Paris Saint-Germain. Tu te rends compte que c'est pas parce que tu vas envoyer 500 millions par an que tu gagnes la Ligue des Champions. Mais ces institutions-là, faut les respecter. Le Real n'a rien dépensé. Le Real n'a rien investi.
Chelsea est l'exemple même de que les clubs riches mettent beaucoup de temps avant de réussir en Coupe d'Europe. Ils ont mis 10 ans.
Mais c'est une bonne chose, je trouve, pour le football, de remettre en perspective, de dire, il suffit
quand même,
pas juste finalement,
c'est
de dépendre de l'argent, de dépenser de l'argent.
C'est le sportif aussi qui fait la différence, c'est pas seulement l'argent.
Et la Ligue des Champions a quelque chose vraiment de particulier. Vraiment. Ouais. Et on le voit, c'est pas l'argent. Les championnats, souvent, ça peut. Aussi. Mais la Ligue des Champions, c'est vraiment spécial. Et ce mois de mars-avril est toujours déterminant pour ces grandes cylindrées. Et c'est comme un marathon, en fait. Il y a la barrière des 30 kilomètres.
Le mur.
Le fameux mur. Mais mars-avril, c'est toujours déterminant.
Bah oui, regarde le Bayern. Ils étaient en souffrance sur les matchs de poule, souffrance face au PSG.
Ils sont là.
Et aujourd'hui, le Bayern, tu peux les voir comme un potentiel victorieux de la Ligue des Champions.
Nasser El Khelaïfi, si vous nous écoutez, un salut amical.
Il est plus bas que les deux Espagnols.
Oui, mais tu sais comment c'est avec Hugh Penkes, il a déjà gagné.
La défense, ça ne me plaît pas. Les Bayern.
Mais ils ont l'expérience.
Oui, l'expérience, le Real a été impressionnant.
C'est vrai.
C'est une petite Juve.
Petite Juve, mais le Real est impressionnant. Le Real est très impressionnant, vraiment. Moi, je les ai commentés face à la Juve. C'est une petite Juve.
T'as dit tout à l'heure.
Mais c'est ils ont une faculté de tuer l'adversaire.
De se transcender surtout.
Non, mais même ils ont une telle qualité technique dans la relance. Ils ont une telle qualité de possession qu'à un moment donné, des joueurs comme Modric, des joueurs comme Toni Kroos, quand ils décident de te priver de ballon, quand ils décident de te priver de rythme, c'est eux qui imposent, en fait.
Ils sont un meilleur terrain défensif qui joue bien au football, un Brésilien.
En plus,
le Real vient de couper l'écoute de l'émission. C'est marrant, me dit-on dans l'oreille. Leur effet est parti ailleurs.
Allez, on va prendre la direction de l'Afrique en l'honneur de Patrice Baumel.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc et les Lions de l'Atlas qui prennent l'avantage 1-0. Marc Boussoufa, restez bien frappé, le 2-0, et c'est Benatia qui est au point de chute pour placer ce ballon dans la lucarne. 2-0 pour le Maroc. C'était la fin et le bon chemin. Et c'est terminé, la délivrance pour le peuple marocain qui retrouve la Coupe du Monde après 20 ans d'absence.
C'est historique aujourd'hui, Agar.
On est très contents et on est fiers parce qu'on a tout le public qui nous a accompagnés. Et merci à tous les supporters de la planète entière pour le Maroc.
Là, voilà, on fait du foot depuis tout petit. Bon. C'est qualifié pour des compétitions comme ça. C'est la plus grande compétition au monde. Voilà, on est fiers de représenter le Maroc, ce pays, ces gens-là qui sont venus en masse. Alhamdoulilah, on a fait le travail. Voilà, je vous remercie tout le monde. Je suis trop content pour tout le monde. Voilà, pour nous, nos familles, c'est extraordinaire.
Patrice Baumel, 20 ans que le Maroc espérait ce moment, ce fut une qualification en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Alors vous étiez sur le banc, Olivier Pron était dans les tribunes. Oui. Racontez-nous de l'intérieur, est-ce que vous êtes parti là-bas à Abidjan en sachant pratiquement que vous seriez qualifié, que vous seriez à la Coupe du Monde?
Un nul vous suffisait.
Un nul suffisait et c'est toujours délicat de jouer un nul. Donc nous sommes allés, nous avons voyagé à Abidjan pour jouer
la victoire.
La victoire, notre jeu. On savait qu'on était monté en puissance sur ces éliminatoires. On était parti avec un nul au Gabon, le premier match. Deuxième match, on avait reçu la Côte d'Ivoire, on avait fait 0-0 à Marrakech. Et puis progressivement, on a toujours pareil, c'est vraiment une sensation de confiance en fait. Lorsque nous avons voyagé à Abidjan, on connaissait bien les lieux mais, et l'équipe, mais on s'est senti vraiment chez nous. Quand je dis chez nous, bon déjà, les supporters étaient arrivés en masse.
Oui, il y avait beaucoup de Marocains.
Exactement, mais il y avait...
3000, on disait.
On peut pas prédire le score, mais je crois que Carlos et Abby me diront ça. Lorsqu'on arrive quelque part, on a un certain sentiment de confiance. On se dit, on est bien. Et il y a plus qu'à, c'est sûr, mais on se sentait vraiment capable de faire ce match, d'aller gagner à Abidjan, ce qui n'est jamais facile. Et ça s'est passé... Pour le plus grand bonheur de
Alors,
tout
on
monde.
Savait que les éléphants, ils étaient un peu, peu inspirés, on va dire, à ce
oui,
moment-là.
Mais nous connaissons les éléphants pour les avoir entraînés. Un éléphant blessé est très dangereux, donc on se méfie d'eux parce qu'il y a des grands champions aussi. Donc, il fallait vraiment compter que sur notre football à nous.
Oui. Alors, il n'y a pas eu donc de ressort des éléphants. Vous êtes qualifiés, vous irez en Russie. C'est dans 3 mois pratiquement que commence cette compétition. Qu'est-ce que vous faites ces 3 prochains mois, vous qui êtes le sélectionneur adjoint avec Hervé Renard?
On sort d'une période, il y a 10 jours, de match de préparation. Mm-hmm. C'est à magasiner la confiance, essayer de voir tout le monde, suivre les joueurs dans les différents championnats, s'assurer qu'ils puissent jouer dans leur club le plus possible et aussi ne pas trop en faire parce que récupérer des joueurs en fin de saison, c'est jamais évident. Ils vont finir... on va dire le mi-mai, et le stage de préparation va démarrer rapidement. Donc c'est essayer de que nos joueurs jouent, parce que c'est un joueur de football a besoin de répéter des gammes tous les jours, tous les week-ends en compétition, mais ne pas aussi les avoir fatigués. Donc il faut trouver ce juste équilibre. Voilà, donc suivre tous nos joueurs, aller les voir se déplacer, leur parler... voilà, construire ce groupe qui est étoffé, hein. Il y a à peu près 35-40 joueurs qui espèrent être dans la liste. Voilà.
Vous êtes attendu à Saint-Pétersbourg, hein. Je vous ai montré la photo tout à l'heure, j'étais la semaine dernière pour l'équipe de France, c'est là où le Maroc va jouer son premier match, et donc il y avait 2 écrans géants la semaine dernière avant le match de l'équipe de France. La plupart des gens qui arrivaient là disaient « Ah, oh, mais ils se sont trompés dans le compte à rebours, parce que la Coupe du Monde c'est dans 79 jours, c'est pas dans 80 jours ». En fait, c'était le compte à rebours à Saint-Pétersbourg pour le premier match de ce stade, ce sera Maroc-Iran le 15 juin, donc dans ce stade-là.
L'Iran.
Et ce sera contre l'Iran. On rappelle que dans ce groupe, après, il va y avoir le Portugal et l'Espagne. C'est quand même un très gros groupe. C'est mieux de jouer l'Iran comme ça d'entrée ou il n'y a pas de mieux?
Il n'y a pas de mieux. C'est une compétition où je pense que l'Iran se dit la même chose que nous. Ils se disent ce premier match est capital pour amagasiner de la confiance et se donner les chances de sortir au deuxième tour. Donc,
Parce que vous êtes dans le groupe C. Le groupe C, il y a l'Espagne et le Portugal, en plus de l'Iran et du Maroc. Quand il y a eu le tirage au sort, vous étiez justement à Moscou, Olivier, et écoutons ce qu'a dit Hervé Renard par rapport finalement à ce qu'avait décidé le sort.
On a voulu y être à cette Coupe du Monde, on y est, avec une immense fierté, et on va garder cette immense fierté pour affronter le champion d'Europe en titre et certainement l'une des meilleures équipes du monde, l'Espagne, qui pratique certainement l'un des plus beaux footballs qui puisse exister sur la planète. Donc c'est à la fois un grand honneur, mais aussi y aller avec détermination et pas y aller en étant déjà vaincu d'avance. Ça serait une grossière erreur parce que dans le football, tout peut arriver. Tout le monde voit déjà le Portugal et l'Espagne qualifiés pour les 8e de finale sans même qu'on ait joué, pas besoin de jouer. Donc si on pouvait le faire, ça serait un exploit retentissant.
Alors comment vous allez faire pour essayer de que ça ne soit pas l'Espagne ou le Portugal, Patrice Baumel?
Comme on dit, le premier match va être déterminant. C'est 3 matchs très difficiles parce que l'Iran, on parle que de l'Espagne et du Portugal. Carlos Queiroz, que j'ai pu voir ces derniers mois lorsqu'on s'est déplacé à Moscou ou à Sochi pour des réunions FIFA, est quelqu'un qui connaît très bien le Portugal, qui veut aller loin aussi. Donc je pense qu'il faut...
Carlos Queiroz avec l'Iran.
Exactement, c'est le sélectionneur de l'Iran.
Ancien sélectionneur du Portugal.
Tout à fait. Donc je pense qu'il faut parler des 4 équipes et dans ce groupe, tout est possible. Après, effectivement, quand on voit la capacité de l'Espagne aujourd'hui, la semaine dernière, ils en ont mis 6
à l'Argentine. Sans Messi.
Exactement. Mais
le rêve a coupé définitivement. Écoute, là, arrêtez.
Mais effectivement, je pense que le premier match va être déterminant parce que il faut pas que nos joueurs soient inhibés et arrivent en disant waouh, on va jouer contre ces géants. Il faut justement qu'ils soient relâchés. Et je pense qu'Habib dira ça. Lorsqu'on est joueur, si on est relâché, on tente des choses. Et c'est à ces moments-là qu'on peut chercher les plus belles victoires, les plus beaux gestes, les plus belles performances.
Et puis je suis même pas sûr qu'il y ait un de ces 23 joueurs, ou en tout cas de tout ce groupe qui a envie d'aller à la Coupe du Monde, qui soit effrayé d'avoir l'Espagne et le Portugal. Lorsqu'on a pris la France, le Danemark et l'Uruguay, pour nous, on dit tant mieux. Non, mais pour la première fois, on va à la Coupe du Monde. On a la chance de jouer le champion du monde, champion d'Europe en titre. On a envie justement de se frotter au meilleur. C'est ce qui fait la passion du football aujourd'hui. On joue tous au foot pour avoir des défis qui sont presque inatteignables. Nous, on l'a réussi à le faire. Encore une fois, le football parfois vous réserve des surprises. Le premier match est important, pourquoi ? Parce qu'il vous permet ensuite d'avoir une forme de relâchement sur la compétition lorsque vous le gagnez. C'est-à-dire que vous avez, en quelque sorte, vous offrez un joker, même si je pense que le joker en football n'existe pas parce qu'il faut gagner tous les matchs. Mais vous permettez de travailler un peu avec un peu plus de sérénité, c'est-à-dire que où les joueurs sont relâchés. On sait que le relâchement aujourd'hui dans le football est très important.
Carlos, hein, comment vous le voyez-vous ce groupe C avec ce Maroc confronté?
J'étais en train de réfléchir, je dis, s'il gagne le premier match, après tu joues au match nul contre les autres deux.
Bien sûr.
Et tu fais deux matchs nuls.
C'est ce qu'on a fait nous, hein. On avait battu la France, donc on avait 3 points et on a fait 2 matchs nuls ensuite.
La question c'est capital gagner le premier.
Et un des deux parce qu'il y aura un Portugal-Espagne pendant qu'eux vont jouer le...
Imagine-toi qu'eux font match nul.
Un des deux sera peut-être en difficulté entre l'Espagne et le Portugal.
Il peut faire match nul.
Il peut avoir une grosse pression sur le perdant.
Tout le monde nous parle justement du Portugal de l'Espagne et à chaque fois nous répétons le match le plus compliqué à aborder, c'est l'Iran. Parce qu'ils se disent la même chose que nous. Et c'est pas une équipe, c'est une équipe qui a gagné, je crois, qui a pas perdu sur les 5 dernières années un match international en Asie. Donc c'est une équipe redoutable. Donc il ne faut pas la sous-estimer non plus.
Patrice Boismel, une belle histoire dans ces Lions de l'Atlas. Pour l'instant, en tout cas, c'est Ayoub El Kaabi. On l'a remarqué pendant le CHAN, il est le meilleur buteur du CHAN avec le Maroc, les joueurs locaux qui donc remportent le titre au Maroc en janvier dernier, ou c'était en février d'ailleurs la finale. Et là, il a marqué contre l'Ouzbékistan. C'est un joueur qui a 24 ans, qui évolue dans le championnat national et que vous emmènerez peut-être en Russie.
Oui, il est dans la liste probable, on le suit de près. Effectivement, mais c'est un joueur qui a des qualités d'attaquant vraiment surprenantes pour un joueur qui sort, entre guillemets, de nulle part. On l'attendait pas.
Vous l'avez découvert, vous aussi, au moment du CHAN ?
Non, on le suivait un petit peu avant. Donc, tout un staff le suivait dans son championnat. Il est à Berkane. C'est un joueur qui marquait des buts, qui marque des buts depuis. Mais on ne l'attendait peut-être pas à ce niveau-là aussi rapidement. Et je pense qu'il est déjà... une certaine maturité à son poste. Après, il faut pouvoir répéter ses performances au très haut niveau. On a vu lorsqu'on rentre dans des matchs internationaux, l'intensité est tout autre. Mais c'est un joueur, je pense, qui va progresser en jouant avec des grands joueurs à côté de lui.
Vous êtes impatient ?
Bien sûr.
Vous dormez bien
sûr. Oui, on dort bien parce que c'est encore loin et c'est difficile de se projeter aujourd'hui. Mais on a hâte d'y être parce que c'est tout d'abord un rêve d'être humain. Chaque être humain aimerait jouer une Coupe du Monde. Mais oui, effectivement, on languit d'y être. Mais au-delà de El Kaabi, on a écouté les témoignages des joueurs. C'était Ralid Boutayeb et Romain Saïs. Ce sont des joueurs qui ont finalement un peu le profil d'El Kaabi, puisqu'ils ne sortent pas de centre de formation. Ce sont des joueurs qui sont sortis sur le tard. Donc voilà, c'est peut-être aussi une symbolique d'avoir des joueurs qui sortent de clubs sans sortir de club professionnel à la base.
Merci beaucoup Patrice Boismel d'être venu dans Radio Foot International aujourd'hui. Merci Carlos d'être revenu. Habib est arrivé à temps de Barcelone, mais c'est vrai qu'il avait une très bonne excuse. Merci Bruno et Olivier.
C'est jamais.
Merci aussi à David Finzel et Pierre Guérin et à Guillaume Ploquin. À demain.